carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Il se disait autant ornithologue que compositeur, et même peut-être plus ornithologue que musicien. Olivier Messiaen, qui aurait eu 100 ans en 2008, aimait les oiseaux et leurs chants. Les oiseaux, disait-il, sont les plus grands musiciens du monde et les premiers à avoir fait de la musique. Près de 400 espèces de chants d'oiseaux sont ainsi répertoriées dans ses œuvres. Une transcription souvent réaliste, parfois idéaliste, et qui paradoxalement heurte le public dans une œuvre comme Chronochromie, où le mouvement Épode rassemble 18 oiseaux chantant en fugue au lever du soleil. Vous l'entendez ici interprété par l'orchestre de Cleveland, dirigé par Pierre Boulez. Alors pour parler d'Olivier Messiaen, et spécifiquement d'Olivier Messiaen ornithologue, nous avons invité le compositeur François-Bernard Mache, membre de l'Académie des Beaux-Arts, tout comme l'était Olivier Messiaen. François-Bernard Mache, bonjour.
Bonjour.
François-Bernard Mache, vous avez été l'élève d'Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris, et puis vous aussi, vous utilisez dans vos compositions des chants d'oiseaux, soit en bande magnétique, soit en transcription pour instruments. Est-ce que vous vous sentez, de façon générale d'abord, et ensuite on parlera plus précisément des oiseaux, est-ce que vous vous sentez proche de l'esthétique d'Olivier Messiaen ?
Pas vraiment, mais je suis extrêmement admiratif par l'ampleur des vues esthétiques de Messiaen. Je pense qu'au XXe siècle, il est un des rares compositeurs qui ait embrassé la totalité des possibilités musicales et qui en ait inventé quelques-unes. Si on songe que cet homme-là est à l'origine du sérialisme intégral, il est à l'origine, ou en tout cas un des premiers à s'être intéressé aux cultures autres qu'européennes, à une époque où ce n'était absolument pas la mode. Et il a également été très intéressé par les possibilités électroacoustiques, puisqu'il s'est même essayé un moment à la musique concrète et qu'il m'a toujours encouragé à persévérer dans cette voie. Donc c'est un homme qui avait une ampleur de vue, des connaissances historiques immenses et une curiosité insatiable. Donc c'est vraiment un des très très grands compositeurs de notre histoire.
Et qu'est-ce que vous diriez que vous avez repris d'Olivier Messiaen, si vous avez repris?
Alors, en ce qui me concerne, consciemment, je n'ai rien repris parce que, en ce qui concerne en particulier les oiseaux, j'estimais qu'il avait fait le tour de la question et j'ai mis très longtemps à m'intéresser aux oiseaux et par le biais non pas d'une imitation directe du travail de Messiaen, mais par l'apprentissage de l'écoute qu'avait induit chez moi la familiarité avec le studio de musique concrète, comme on disait à l'époque, le groupe de recherche musicale, dont j'avais été un des premiers membres en 58, l'année même où je travaillais chez Messiaen.
Et comment était l'homme Messiaen, vous qui l'avez fréquenté un petit peu?
Bien, l'homme était extrêmement affable, ouvert, généreux, presque trop, dirait-on, parce qu'à certains moments, on avait l'impression que cette volonté de de ne pas heurter, de ne pas refuser, aller jusqu'à l'indétermination, puisqu'il approuvait a priori presque tout ce qu'on lui soumettait, et que d'abord c'était un homme qui ne faisait pas de cours de composition. Il faisait des cours d'analyse, et quand j'y étais son élève, ça s'appelait philosophie de la musique, c'est-à-dire qu'il avait d'emblée ce recul et il se refusait à faire des exercices d'écriture que d'autres professeurs au conservatoire faisaient, d'ailleurs d'une façon un peu trop traditionnelle la plupart du temps. Et il invitait les élèves à réfléchir sur ce qu'avaient fait les compositeurs du passé et du présent. Et c'était un homme qui avait... la même bienveillance a priori. Et puis, lorsqu'on le fréquentait un peu plus, on s'apercevait que, malgré cette bienveillance, il avait des options extrêmement précises et des antipathies non moins précises. Quelquefois bizarres, d'ailleurs. Par exemple, au XXe siècle, quelqu'un pour lequel il avait une sorte d'aversion, c'était Ravel. Pas le moindre des compositeurs. Donc, il y avait des... également Jean-Sébastien Bach. Il l'admirait de loin, mais... il reconnaissait un métier à toute épreuve, mais un manque d'inspiration dans pas mal de ses œuvres, disait-il. Peut-être y avait-il l'antagonisme catholique-protestant derrière cette attitude, je ne sais pas.
Et il se sentait très proche de l'esthétique de Debussy.
Oui, Debussy était la révélation de sa vie. Il nous racontait toujours qu'à l'âge de 8 ans, son professeur de piano, je crois, avait eu l'intelligence de lui offrir la partition de Péléas, qui était une nouveauté de musique contemporaine à l'époque, et pour un enfant aussi jeune, c'était une chose étonnante. Et cette partition ne l'a jamais quittée, elle doit être maintenant dans le dépôt de ses archives à la Bibliothèque nationale, couverte de notes qui lui servaient à faire des analyses fréquentes et très brillantes. Et alors, comme homme, c'était un homme qui avait un certain culte du secret par moment. C'est-à-dire que si on l'interrogeait sur les œuvres qu'il était en train de faire, il esquivait, il préférait ne rien dire, il cultivait un peu le mystère sur ce plan-là. Et alors évidemment, comme et tous les gens qui veulent se réserver de façon très légitime une part de mystère, eh bien, on essayait de percer le mystère. J'en ai percé quelques-uns, mais ça n'allait pas très loin. Il y avait tout de même eu une tentation dont on parle assez peu souvent à propos de Messiaen, que je voudrais mentionner parce qu'elle éclaire un aspect de sa personnalité. C'est la tentation de suivre l'enseignement de Gurdjieff. Gurdjieff était une sorte de mage qui impressionnait beaucoup d'intellectuels dans les années 30 et qui était le gourou d'une sorte de secte et à laquelle Messiaen s'était intéressé parce que Gurdjieff était en même temps compositeur. Il composait des sortes d'exercices sonores, spirituels, assez étranges, un peu orientalisants. Et alors, Messiaen nous racontait qu'il était allé une fois à une réunion du groupe de Gurdjieff, et puis on lui avait fait comprendre qu'il fallait faire l'adoration du soleil. Alors ça lui avait paru extrêmement suspect d'un paganisme auquel il ne voulait pas être mêlé, donc il avait abandonné. Mais ce qu'il n'avait pas abandonné, c'était une fascination également secrète pour l'arithmosophie, ça allait même jusqu'à la magie. Un des personnages qui ont beaucoup frappé son imaginaire, c'était Gilles de Rais. Donc Gilles de Rais, parce que c'était un compagnon de Jeanne d'Arc, et alors c'était cette proximité troublante entre une sainte et un diabolique pervers, qui probablement exprimait peut-être une face cachée du personnage. Je ne veux pas dire que Messiaen se livrait à la magie noire, mais il se livrait à la magie blanche. Quand il disait, par exemple, le charme des impossibilités à propos de spéculation numérique, il entendait par charme le sens très fort de son étymologie, c'est-à-dire une opération magique, un champ magique. Et je ne serais pas éloigné de penser que lorsqu'il cultivait les formes non rétrogradables, comme disait, c'est-à-dire les énoncés thématiques ou autres qui peuvent se lire en palindrome, de gauche à droite et de droite à gauche, il créait ce qui, dans son imaginaire, devait correspondre à peu près au cercle magique dans lequel s'enferment, paraît-il, les nécromanciens avant leurs opérations troubles et sulfureuses. Bon, alors je ne suis pas en train de dire que Messiaen était un adepte de tendance ésotérique suspecte. C'était un homme qui s'était complètement dévoué à l'orthodoxie catholique et qui n'est pas suspect d'hérésie, même clandestine, mais ça faisait partie de cette face un peu cachée du personnage.
Ou de l'imaginaire de ses étudiants.
Non, je ne crois pas, parce que non, ça correspond à des choses dont il nous parlait. Par exemple, dans telle œuvre, il y a des cris d'enfants égorgés. Des cris d'enfants égorgés, je veux dire que probablement il n'a jamais entendu, Dieu merci. Mais quand il nous parlait de la chouette effrayée, il nous disait toujours « c'est un cri d'enfants égorgés ».
Alors, pour revenir à Messiaen ornithologue et à Messiaen pédagogue, vous parliez à l'instant du fait qu'à un moment, vous avez peut-être été un petit peu agacé par ces chants d'oiseaux. Est-ce que, dans sa pédagogie, est-ce qu'il vous en parlait beaucoup et est-ce qu'il vous incitait à utiliser les chants d'oiseaux? Est-ce qu'il vous amenait sur des lieux pour écouter au matin
Non, parce qu'il aurait fallu se lever à 4h du matin, il n'y aurait pas eu beaucoup de candidats. Non, mais il essayait de nous intéresser vivement à tout ce qui le concernait. Chants d'oiseaux, symbolique des couleurs, théâtre de Shakespeare, des théologiens pour lesquels il avait une affection particulière, saint Thomas, et puis parmi les modernes, Dom Marmion. Il nous faisait part de ses goûts, mais sans jamais les imposer. Il admettait très bien qu'il y ait d'autres goûts. Et d'ailleurs, c'est ça qui faisait de lui un pédagogue hors pair, c'est-à-dire qu'il encourageait les élèves à aller dans leur propre sens. Moi, il savait que j'étais auprès de Pierre Schaeffer à la fondation du groupe de recherche musicale. Il m'encourageait beaucoup à continuer dans cette voie. Et dans son imaginaire, la pédagogie n'était pas comme pour certains professeurs, une façon de s'obliger lui-même à réfléchir sur les principes de son art. C'était un petit peu, comment dire, du prosélytisme. C'était une façon discrète de nous dire, venez dimanche, j'improvise à la Trinité. Donc, ça vous fera toujours une messe si ça fait pour autre chose, vous voyez. Mais c'était discret. Et une fois, je me souviens d'une chose extrêmement touchante qu'il m'a dite. Après, je lui ai montré certaines choses. Ah, écoutez, autour de Jésus, il y avait des disciples, il y avait 12 disciples, mais parmi les disciples, il y avait ceux qui étaient chers à son cœur et vous en faites partie. Donc, je me voyais déjà en disciple du maître et comme j'étais tout à fait agnostique à cette époque, j'éprouvais un certain recul devant cette affection déclarée. Je le regrette maintenant parce que ça partait non pas d'une volonté d'imposer ses croyances, mais d'une réelle chaleur humaine très précieuse.
Thank you.
Vous venez d'écouter un extrait de La Fauvette des Jardins, composé en 1970 par Messiaen et interprété ici par le pianiste Roger Muraro. Alors, d'où est venue, est-ce qu'il l'expliquait, d'où est venue à Messiaen l'idée de s'intéresser aux oiseaux ?
Alors ça, il s'en est expliqué à plusieurs reprises. Il y a déjà des oiseaux dans les œuvres des années 30, à titre d'ornement occasionnel. Mmh. Parce que l'oiseau, dans l'imaginaire chrétien, a un rôle très spécifique. Il est quand même le messager du ciel. Et pas seulement chrétien, d'ailleurs, dans beaucoup de religions. Après tout, dans le paganisme antique, c'est en observant les oiseaux qu'on essayait de deviner les intentions des dieux.
Mmh. Et chez Messiaen, le lien entre ciel et terre.
Oui. Le lien entre ciel et terre, évidemment. Et le chant d'oiseau apparaît toujours comme une espèce de vision d'innocence et comme quelque chose qu'il faut écouter au-delà de la raison et au-delà de toute technique. Et puis, il y a eu une mutation chez Messiaen, essentiellement après la guerre, lorsque sa personnalité est apparue au premier plan avec un certain nombre de scandales d'ailleurs, comme celui des trois petites liturgies. Et à la fin des années 40 et surtout au début des années 50, Messiaen s'est intéressé autrement aux oiseaux, c'est-à-dire qu'il avait une familiarité réelle avec le chant des oiseaux et il s'est mis à les transcrire et non pas seulement à les citer de façon un peu décorative, mais à en faire la substance même de sa musique. Et alors à cet égard, des œuvres comme Le Réveil des oiseaux, comme Les oiseaux exotiques surtout, certains passages de Chronochromie comme les Pods sont des œuvres qui ont véritablement révolutionné, apporté des procédés d'écriture absolument inédits et aussi loin de l'avant-garde officielle qui était le néo-sérialisme que du conservatisme officiel qui était un humanisme un peu en fin de course.
Donc, Messiaen les utilise d'un point de vue formel et puis les réutilise, les retranscrit de façon parfois très réaliste. Et puis, il le dit lui-même de façon idéaliste, puisque en général, ce n'est pas un chant en particulier recueilli un jour J, mais l'accumulation et l'agrégation de chants idéaux qu'il aurait entendus d'une même espèce à différents moments et à différents endroits.
Alors là, il faut distinguer selon les cas. Il y a des œuvres, comme dans le catalogue d'oiseaux, par exemple, où il s'attache au contraire à rendre compte d'une journée précise, datée heure par heure, et très, très précisément notée sur ses carnets, paraît-il.
Et dans Fauvette des Jardins aussi, je crois.
Oui, donc il peut y avoir cette extrême précision, cette volonté de transcrire. Il y a même dans l'encyclopédie Fasquelle une petite signature de Messiaen avec une transcription de Grive, si je ne m'abuse, avec pour copie conforme, Olivier Messiaen. Et la copie n'est jamais forcément conforme, évidemment. Mais il y avait eu cette volonté. Et il y a eu aussi, alors, des assemblages quelque peu déconcertants entre des oiseaux qui habitent des biotopes et même des pays différents, comme dans Les oiseaux exotiques, par exemple. Et puis, alors, cet assemblage encore plus invraisemblable, que personne d'autre que lui n'aurait osé, je crois, entre un formalisme, une combinatoire inspirée par la rythmique grecque, les catalogues de rythmes hindous, et puis les formes strophiques empruntées à la tragédie grecque, et des chants d'oiseaux. Si on regarde le plan des oiseaux exotiques, on voit ce mélange invraisemblable dans lequel il arrive à une synthèse tout à fait étonnante. Et c'est une des choses, je crois, qui m'ont marqué, c'est-à-dire qu'il y avait là au-delà de la littéralité des procédés d'écriture qu'il utilisait, une espèce de leçon d'agilité d'esprit, d'ouverture, qui n'était pas du tout la table rase à laquelle prétendait une autre avant-garde à la même époque, mais qui était tout le contraire. C'est tout sur la table et on en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'il y avait un appétit de musique de toutes origines et il arrivait à... L'expression qu'il utilisait lui-même, c'est l'abeille recueille des pollens partout, mais elle en fait son miel. Et il employait toujours « j'en fais mon miel ». Et effectivement, c'est ça le talent incroyable de Messiaen, c'est cette intelligence de percevoir, à travers des sources musicales hétéroclites, quelquefois apparemment incompatibles, ce qui pouvait être intégré dans un langage commun.
Nous vous proposons d'entendre un extrait du catalogue des oiseaux de Messiaen avec Yvonne Loriot au piano. Olivier Messiaen, par l'intermédiaire de ses oiseaux, a innové vis-à-vis de la composition. Il disait lui-même qu'il trouvait que c'était une méthode d'écriture très innovante. C'est-à-dire que pour rendre le timbre d'un oiseau, il procède à des agrégats de notes. C'est ce qu'il appelle la méthode additive. Il n'y a pas d'harmonie, pas de fonction tonale ou modale, mais juste une vision acoustique pour rendre cette impression qu'il avait eue à un moment donné à l'oreille d'un bois.
C'est bien cela, et c'est une des originalités majeures aussi de Messiaen, c'est de s'être souvenu qu'il était organiste et que l'orgue était en somme l'ancêtre du synthétiseur, puisque c'est avec l'orgue que par les compositions des timbres, on peut arriver à recréer des simulations de timbres par synthèse additive. Et Messiaen avait non seulement pratiqué l'orgue classique, mais aussi pour gagner sa vie, il avait fait de l'orgue à monde. Et il était organiste au Gaumont à un moment. Il nous racontait toujours une mésaventure qu'il avait eue lorsqu'il s'était trompé d'un bouton et qu'au lieu d'avoir tiré le registre qu'il croyait, il avait tiré sur la commande de la plateforme qu'il avait fait descendre au sous-sol avec son orgue. C'était assez gênant. Mais ceci pour dire qu'il composait les chants d'oiseaux comme il composait une registration d'orgue. Et effectivement, c'était prémonitoire, puisqu'après, il y a eu toute une génération de compositeurs qui ont abandonner l'harmonie pour lui donner une autre fonction, au lieu d'en faire des fonctions grammaticales, en quelque sorte, comme dans l'harmonie classique, en faire des recherches de composition en faisant fusionner l'idée d'harmonie et l'idée de timbre.
Et en plus de cela, il ajoutait, souvent par d'autres instruments que celui qui tient le chant d'oiseau, une variété de timbres et de couleurs qui amenait justement cette ambiance. Il voulait retranscrire un paysage, en fait. Le fait que tel chant d'oiseau se propage dans un lieu plus ou moins fermé ou dans un lieu plus ou moins ouvert, et donc il y a le son rebondit ou non sur des parois rocheuses. C'était assez innovant, ça aussi, de sa part.
Oui, un peu moins, parce que ça c'est tout de même de l'ordre de l'impressionnisme. C'est la leçon de Debussy, ça, c'est... tandis que le chant d'oiseau, en dehors de Paul Dukas, son maître, qui disait toujours à ses élèves d'écouter le chant d'oiseau, là, il était un pionnier, même si beaucoup d'autres compositeurs, y compris Ravel, qu'il n'aimait pas, avaient transcrit des chants d'oiseau. Non, l'aspect subjectif de rendre un paysage, c'est l'aspect qui, pour moi, est le plus faible chez Messiaen, parce que c'est une subjectivité plus difficile à partager et qui le ramène un peu vers la musique de l'époque impressionniste.
Que l'on peut entendre dans Le Merle Bleu, par exemple, du catalogue des oiseaux. Alors, François-Bernard Mache, vous avez écrit un article dans le livre du centenaire d'Olivier Messiaen, paru aux éditions Symétrie, et vous vous interrogez sur comment est-ce que Olivier Messiaen a exactement enregistré ou pris ces chants d'oiseaux. Olivier Messiaen a surtout parlé de ses moments et raconté toutes ses matinées ou ses soirées, ses voyages passés papier, musique et crayon à la main, magnétophone aussi, je crois.
Alors, le magnétophone était entre les mains d'Yvonne Loriot, qui prenait son témoin.
Sa femme et son interprète attitrée.
Oui. Pour permettre justement de vérifier après coup l'exactitude des notations, parce que l'oiseau chante trop vite pour qu'on puisse le noter, même en sténographie. Donc, il y avait déjà une part de virtuosité et de subjectivité dans la première transcription. Mais je n'ai pas pu consulter les carnets de notes qui sont à la Bibliothèque nationale et qui révéleront certainement beaucoup de choses. En ce qui concerne les oiseaux exotiques, je suis presque sûr que dans les 15 jours où Messiaen est resté aux États-Unis, il n'a pas eu l'occasion d'entendre énormément d'oiseaux. Et par conséquent, il a certainement utilisé une des premières publications qui existait à l'époque, de la Cornell University. C'est l'album de Peterson, Western Birds, les oiseaux de l'ouest des États-Unis. Et effectivement, je me suis procuré ce recueil, j'ai comparé les enregistrements disponibles avec certaines transcriptions de Messiaen, et il y a une correspondance assez éclairante. Dans beaucoup de cas, il n'ayant pas pu enregistrer sur le terrain, il est parti d'enregistrements déjà publiés. Mais dans d'autres cas, il a, au témoignage même des ornithologues qui ont travaillé avec lui, comme Paul Penneau ou Delamain, il a véritablement été à 6 heures du matin sur le terrain avec sa longue vue, avec ses jumelles et son petit carnet. Et il a fait un travail qui demande une oreille et une science musicale exceptionnelle.
Il raconte que parfois il a dû retranscrire un premier chant d'oiseau, et pendant qu'il écrivait, écouter, retenir ce qui était en train de se chanter juste après, donc un exercice cérébral assez impressionnant.
Absolument, celui même des traducteurs simultanés, qui est d'une langue dans l'autre, oui, bien sûr. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que on ne peut pas transcrire sans métamorphoser. L'oreille humaine n'est pas capable d'appréhender un certain nombre de traits du chant d'oiseau, la portée des glissandis qui sont très fréquents, presque toutes les syllabes sont glissées dans le chant d'oiseau. Elles sont glissées de façon continue ou granulaire, donc tout ça échappe parce que c'est de l'ordre du centième de seconde et que l'oreille humaine ne distingue entre deux sons qu'à partir du 20e, 25e de seconde. Mmh. Il y a donc forcément une intervention de la subjectivité.
Et aussi de la réalité de l'exécution ensuite par un orchestre ou par un instrument, un problème de registre et puis un problème de vitesse d'exécution.
Absolument, mais ça fait partie non pas des faiblesses de Messiaen, mais au contraire des forces, parce que ce qui est intéressant dans l'usage du modèle, et c'est là que je lui dois beaucoup, c'est justement que le modèle, même dans la volonté de s'en rapprocher au plus près, excite l'imagination du compositeur. C'est une méthode heuristique, comme disent les scientifiques, c'est pas une méthode de copie conforme, en réalité. Plus on veut être conforme, plus on est amené à utiliser la totalité de son expérience et de son audition pour faire autre chose. Mais au-delà de ces déformations nécessaires et finalement fécondes, il y a dans l'analyse des chants d'oiseaux des leçons très troublantes que Messiaen n'a pas toujours élaborées, c'est sur la forme. Messiaen, travaillant sur le terrain, a rarement bénéficié d'un recul lui permettant d'apprécier la forme, les procédés de variation de l'oiseau. Il ne s'intéressait plus à la substance même du chant d'oiseau qu'à son organisation dans le temps. Et c'est pourquoi, dans une œuvre comme Les oiseaux exotiques, il utilise une forme étrangère au chant d'oiseau, inspirée de, par exemple, de la succession des tragédies grecques en trois parties, avec les deux parties strophe et antistrophe conclues par l'épode, au lieu de s'inspirer des formes présentes dans le chant d'oiseau. Et donc, il y avait du travail à faire. Et ce que j'ai fait personnellement, c'est justement cette recherche sur la forme, et surtout, une chose qu'il n'a jamais faite, c'est intégrer le chant d'oiseau lui-même dans l'œuvre. C'est-à-dire que Messiaen n'a pas fait d'œuvre mixte.
Alors que vous avez repris des chants d'oiseaux sur bande magnétique.
Voilà, en faisant un montage de chants d'oiseaux sans déformation particulière, mais en choisissant les épisodes et en les doublant instrumentalement.
Notamment Corvar, si je me souviens bien.
J'ai fait ça dans Corvar et j'ai fait ça dans une autre œuvre qui l'a beaucoup troublé, qui est Nalouane, où il n'y a que des chants d'oiseaux d'un bout à l'autre, pratiquement, chants d'oiseaux et d'insectes. Il avait cette volonté d'approuver, mais en même temps, j'avais le sentiment, enfin, il était très discret, mais j'avais le sentiment que j'étais allé trop loin dans le réalisme, que lui avait besoin d'une certaine stylisation supérieure, et puis aussi que j'étais allé un peu sur son terrain.
Ah,
Mais je n'ai jamais caché tout ce que je lui devais.
Nous venons d'entendre un extrait de Nalouane de François-Bernard Mache pour 8 instruments et sons, interprété ici par l'ensemble L'Itinéraire, dirigé par Boris de Vinogradov. Comment est-ce que vous, vous avez fait alors pour travailler sur les chants d'oiseaux? Comment est-ce que vous vous retranscrivez?
Eh bien, moi, j'ai passé une année, dans le cas de Nalouane, à faire une dictée musicale. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de transcripteur automatique, comme il y a maintenant. Et il fallait réécouter, ralentir le chant, réécouter, réécouter, et trouver la meilleure approximation. Et avec des problèmes de mise en place, c'est-à-dire qu'en réécoutant, on perdait un petit peu une pulsation de référence, donc c'était vraiment difficile à transcrire. Maintenant, je le fais de façon plus précise, plus facile, beaucoup plus facile. Il y a autre chose, où, d'ailleurs, en dehors des chants d'oiseaux, mais si on m'a aussi inspiré quelque chose de façon assez curieuse, et il y a eu un aller-retour, je crois. Quand j'étais son élève, il analysait Roméo et Juliette de Berlioz, qu'il définissait à juste titre comme une sorte d'opéra sans parole. Un opéra où c'est la musique qui dialogue, c'est la musique qui exprime l'inexprimable de Roméo et de Juliette. Et cette métaphore m'a impressionné considérablement. Et je me suis dit, mais après tout, on peut peut-être prendre ça au pied de la lettre et faire une transcription phonétique, transformer les phonèmes de la parole en agrégat, en rythme, en mélodie orchestrale ou instrumentale. Et j'ai fait ça dans une œuvre en 1959, j'étais encore son élève, une œuvre, une petite cantate qui s'appelle Sapphus Mêlée, où il y avait un mouvement dont l'accompagnement n'était autre que la transposition instrumentale du texte chanté par la soliste. Et j'ai montré ça à Messiaen qui avait été extrêmement intéressé. Quelques années plus tard, il a fait ce qu'il a appelé le langage communicable dans les méditations sur le mystère de la Sainte Trinité, où il a adopté aussi une espèce d'équivalence entre, non pas seulement phonèmes, mais syllabes ou notions et musique, en se référant, lui, non pas à ce que j'avais pu faire, mais à une tradition ancienne de la gématria, c'est-à-dire de l'alphabet musical pratiqué dans les pays germaniques.
Comme Bach. Oui.
Comme Bach. Et seulement dans Bach, il n'y a pas de... On n'a pas énoncé, en dehors du célèbre BACH, on n'a pas repéré de discours. Mais il y a ça aussi dans la suite lyrique de Berg, on l'a découvert longtemps après. Donc c'est une espèce de tradition souterraine chez les musiciens que de postuler entre le langage et la musique une équivalence, non pas seulement rhétorique sur l'organisation du phrasé, etc., mais même quelquefois littérale. Et c'est la façon dont j'ai utilisé le langage. J'ai fait ça avec des textes de différentes langues, et encore récemment. C'est parti de cette impulsion lointaine donnée à un cours de Messiaen à propos de Berlioz. Ce que lui-même n'a jamais fait, le langage communicable, il l'a exceptionnellement tenté dans les mystères.
Et ensuite, il ne l'a plus trop utilisé.
Après, il ne l'a plus du tout utilisé.
Et ça pose quand même un problème pour l'auditeur qui n'a pas toutes les clés de compréhension.
L'auditeur n'a pas à avoir les clés de compréhension. C'est-à-dire que, contrairement à Messiaen qui voulait faire passer les vérités cachées de la foi dans sa transcription, moi, je dissocie totalement la sémantique et la phonétique.
Nous venons d'entendre un extrait du Désert, premier mouvement des Canyons aux étoiles, une œuvre d'Olivier Messiaen, ici interprétée par l'Orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Myung-Nyung Chung. Roger Muraro était au piano.
Alors François-Bernard Mache, vous notez qu'Olivier Messiaen a parfois inventé en quelque sorte des chants d'oiseaux.
Voilà, lorsqu'il a, il le disait lui-même, après avoir acquis une familiarité totale avec une immense quantité de chants d'oiseaux, il en arrivait à recréer du style oiseau, comme il disait. C'est-à-dire un oiseau qui n'est pas expressément une des 300 ou 400 espèces chanteuses, mais un oiseau qui ferait la synthèse des procédés de chants d'oiseaux. Je crois qu'il y a ça déjà dans les haïkai.
Oui.
Et dans d'autres œuvres aussi. C'est-à-dire qu'il rejoignait à la fin de sa vie ce qui était apparu au début. Au début, il y avait des oiseaux un peu impressionnistes qui étaient un souvenir de chants d'oiseaux plus qu'une notation. Et à la fin de sa vie, il y avait une synthèse nourrie de toute son expérience du chant d'oiseaux, mais qui ne représentait plus, comme dans le catalogue, une espèce bien précise à un moment bien précis.
Il y a un phénomène, peut-être vous avez une explication, vous, François-Bernard Mache, ce serait intéressant de l'avoir, le fait que parfois la transcription d'oiseaux, de chants d'oiseaux et leur organisation musicale rend l'écoute beaucoup plus difficile que ne l'est le chant d'oiseaux naturellement dans la nature, tel qu'on peut avoir l'habitude de l'entendre si on habite à la campagne. Et c'était le cas, je l'évoquais rapidement dans l'introduction, de l'épode de Chronochromie, où les 18 chants d'oiseaux organisés dans une sorte de fugue, un contrepoids à 18 voix, pendant 10 minutes, eh bien, cette épode a fait scandale.
Oui.
Et c'était assez inaudible, je crois, pour la plupart des auditeurs.
Pour lui, c'était une façon de rendre ces concerts d'oiseaux où tout le monde s'égosille pour chanter plus fort que le voisin en essayant de se faire entendre et où ça donne une sorte de cacophonie générale, mais très intense. Ce qui a souvent été observé aussi, c'était que c'était sa façon à lui de répondre à l'apparition de la musique de Xenakis.
Ah.
Il montrait qu'on pouvait obtenir un résultat global comparable à partir de prémices totalement différentes. Il n'y avait pas besoin des mathématiques ou de la cinétique des gaz pour faire la nature s'en était déjà chargée, ces espèces de nuages de sons.
Et comment se fait-il que ce nuage de son dont vous parlez, ou une sorte de grand fouillis de son, soit perçu avec difficulté par un auditeur lors d'un concert, alors que c'est magnifié dans la nature?
Oui, ce que dans la nature, on peut avoir une attention distraite, et lorsqu'on va au concert, on est censé écouter attentivement, et effectivement, on se noie dans ce... là-dedans, mais je crois que c'est tout à fait volontaire de la part de Messiaen. C'est une façon de montrer qu'il y a une espèce d'opulence naturelle qui dépasse les capacités humaines. C'est une façon à inviter les gens à être plus modestes.
Et le propos est encore amplifié dans le prêche des oiseaux dans l'opéra de Saint-François d'Assise.
Oui, oui, oui.
Opéra qu'il considère comme sa meilleure musique d'oiseaux, je crois.
Oui, oui. Le personnage de Saint-François, évidemment, il s'y assimile lui-même. Saint-François prêchant aux oiseaux, c'est un renvoi, en quelque sorte. Les oiseaux lui ont apporté leur musique, mais quelquefois, l'histoire célèbre des Fioretti, les oiseaux finissent par déranger Saint-François qui voudrait prier ou prêcher, je crois. Et donc, il leur impose silence. Et je ne sais pas, dans l'imaginaire de Messiaen, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais certainement à quelque chose d'essentiel, puisque le tableau où il y a les oiseaux dure, je crois, pas loin d'une demi-heure. Et jusqu'à la fin de sa vie, il a fait des oiseaux. Il y a encore des oiseaux.
Et c'est plutôt les oiseaux qui ont prêché auprès de Messiaen, en fait.
Dans toutes les attitudes mythiques, on ne sait pas très bien qui est fils d'eux ou père d'eux. Il y a toujours une réversibilité des rôles autour d'une image forte. Oui.
Merci beaucoup, François-Bernard Mache, pour cette analyse d'Olivier Messiaen, ornithologue. Alors, je renvoie les auditeurs à l'article que vous avez rédigé dans le livre du centenaire de Messiaen, publié en 2008 aux éditions Symétrie, ainsi que votre livre « Un demi-siècle de musique est toujours contemporaine », un ouvrage paru chez l'Harmattan. Alors, pour clore cette émission, nous vous proposons d'écouter une nouvelle fois une œuvre d'Olivier Messiaen, cette fois-ci « Le réveil des oiseaux », interprété ici par la pianiste Yvonne Loriot et l'Orchestre national de France dirigé par Kent Nagano.